Deutsche Welle, magazine environnement.
Vendredi dernier a été célébrée la journée mondiale de la lutte contre la désertification. L'occasion pour nous de revenir sur la dégradation des terres, un phénomène qui en partie explique l'insécurité alimentaire. Également, nous irons à Zanzibar où le changement climatique menace l'industrie d'algues. Mesdames et messieurs, bonjour, Kosivi Tiassou au micro. Lutter contre la sécheresse et la désertification, c'est assurer l'avenir de l'humanité tout entière. Déclaration faite par le président du FASO, Roch Kabore, à Ouagadougou jeudi dernier. Ouagadougou, où a été célébrée cette année la journée mondiale de la lutte contre la désertification. Notre pays, notre nation, notre avenir, ainsi est libellé le thème de la journée. Outre les chefs d'État nigériens, maliens et burkinabés, on comptait aussi la présence de la secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, Monique Barbu.
Il y a aujourd'hui 500 millions de terres agricoles abandonnées parce qu'elles ont été dégradées à travers le monde. Si vous restauriez ces 500 millions d'hectares de terres dégradées à un coût qui est très bas, c'est de l'ordre de 100 euros l'hectare, vous pourriez séquestrer un tiers des émissions de gaz à effet de serre chaque année. Donc, en réalité, en faisant ce genre d'opération, un, vous réglez les problèmes de sécurité alimentaire à travers la planète, parce que si vous restaurez 500 millions d'hectares, vous pouvez nourrir les 9,6 milliards d'individus que nous serons en 2050. Vous réglez des problèmes de sécurité nationale et internationale parce que vous limitez les flux migratoires. Il n'y a pas de raison que les paysans s'en aillent s'ils peuvent se nourrir de leurs terres. Et vous avez la mesure la plus puissante et la plus rapide pour lutter contre le changement climatique.
Oui, et concrètement, on le voit par exemple dans une région comme Maradi au Niger où les femmes font de la récupération des terres dégradées leur travail quotidien. Et on voit que dans cette zone, ça marche et que des hectares de terres ont été récupérés. Mais c'est des femmes qui se plaignent parce qu'elles n'ont pas de soutien.
Et ça, c'est un vrai sujet parce que du coup, toute leur connaissance, tout leur savoir, qui est relativement important, n'est pas considéré puisque ce ne sont même pas leurs terres qu'elles peuvent travailler et qu'elles peuvent gérer. Et une des choses, c'est comment pouvons-nous faire en sorte que tous ces savoirs de populations autochtones puissent être mis à disposition du plus grand nombre. Parce que souvent, on s'aperçoit que les mesures les moins chères et les plus adéquates pour faire de la restauration de terres, elles passent par des savoirs ancestraux. Malheureusement, ce que font les femmes dans Maradi, personne ne le connaît en dehors de Maradi. Et donc, comment faire en sorte qu'aussi ce type de savoir soit mis à disposition du plus grand nombre pour avoir des opérations peu coûteuses et surtout bien indiquées pour des populations à peu de moyens.
La secrétaire exécutive de la Convention sur la lutte contre la désertification, Monique Barbu. En Afrique, 11 pays veulent stopper la dégradation des terres et prévenir aussi la criminalité à travers le projet de la Grande Muraille Verte. Un espace vert à restaurer et qui devrait s'étendre de Djibouti au Sénégal avec près de 8000 km de long sur 15 km de large. Comment est-il possible de régénérer l'espace vert? Question à Hans-Joseph Fell, ancien député allemand et président de Energiewatch Group.
Il s'agit d'une politique de reforestation qui prend en compte des étendues de terre, des espaces qui en fait sont devenus désertiques ou complètement arides et où à peine quelque chose pousse encore. Jusqu'ici, le désert du Sahara s'est répandu du nord du Niger vers le sud. Il faudrait donc lui barrer la route et la meilleure solution est évidemment la reforestation. Des arbres qui sont capables de résister aux conditions climatiques vont être plantés de manière traditionnelle et des espaces agricoles seront créés. Cette muraille verte est l'un des plus importants projets dans le but de protéger le climat, car elle sera une source de carbone et donnera aux gens sur place de nouvelles opportunités de vie. Si ces gens n'ont aucun avenir, cela va déstabiliser tout le système sociétal. C'est évidemment un terreau pour le radicalisme et nous voyons là un lien avec les migrations et le terrorisme.
L'écologiste Hans-Joseph Fell est interrogé par notre collègue Gwendoline Hills. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale contre la désertification, la question de la faisabilité du projet de la Grande Muraille verte a été relancée, surtout avec la violente sécheresse qui frappe les hommes et les troupeaux dans plusieurs régions du continent. La régénération des terres dégradées est aussi l'une des préoccupations du CILS, le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, une organisation qui regroupe 9 pays sahéliens. Boafou Kouame Guy Marcel est le directeur de l'Institut spécialisé du CILS.
Au stade où on est, il faut stopper la dégradation des terres et chercher à restaurer les terres qui ont été dégradées. Donc initialement, on a parlé de bilan zéro dégradation des terres.
Et en la matière, quel est le bilan des pays du CILS?
Le bilan est positif puisqu'on arrive à restaurer des terres à travers des techniques qui ont été mises en place par les experts du CILS. Et ces techniques-là sont expérimentées sur le terrain. Il y a la technique de la demi-lune, du zaï, du cordon pierreux. Et lorsqu'on utilise ces techniques sur des terres anciennement dégradées qui ont été restaurées, on voit que les productivités de ces terres-là sont nettement supérieures à ce qui était récolté par le passé.
Mais ces techniques ne sont pas des techniques nouvelles. Les ailes, demi-lunes, cordon pierreux, c'est des techniques traditionnelles que les paysans pratiquaient depuis fort longtemps.
Oui, mais il faut leur montrer, il faut montrer ces techniques-là à un grand nombre. De sorte qu'aujourd'hui, on a développé un concept qu'on appelle agriculture intelligente face au climat. L'agriculture intelligente face au climat veut impliquer une bonne pratique, une bonne gestion des terres en s'adaptant au changement climatique. Ce sont des techniques qui ont été élaborées et en la matière, le CILS est pionnier.
Mais en la matière aussi, il y a un manque de communication. Est-ce que tous les paysans de votre région, des pays couverts par le CILS, est-ce que les populations, toutes les populations sont informées à ce sujet?
Le CILS est une organisation régionale. Nous mettons nos techniques élaborées à la disposition des structures compétentes nationales.
Et maintenant, c'est assez.
Tout maintenant doit faire une réplication au niveau national et local. Pour le cas du Niger, je sais qu'il y a eu 40 000 hectares de terres dégradées récupérées grâce à nos techniques mises en œuvre.
Et en combien d'années?
En peu de temps, en moins de 5 ans.
Donc aujourd'hui, le Niger est un exemple en la matière.
Aussi bien le Niger, le Burkina et le Sénégal, ce sont des exemples à citer.
Boafou Kouame Guy Marcel, le directeur de l'Institut spécialisé du CILS. Chaque année, ce sont des milliers d'hectares de sols fertiles qui disparaissent. 30% du terroir des États-Unis est aussi affecté par la désertification.
Vous écoutez la Deutsche Welle.
Cap sur Zanzibar, dans cet état tanzanien, les femmes se dirigent tous les matins vers des fermes d'algues. Tout ce dont elles ont besoin pour le développement des algues sont des chaînes et des bâtons. Mais avec le dérèglement climatique, tout semble ne plus bien marcher pour elles. Un reportage de Georges Moutero, présenté par Wendy Bassi.
Sur l'archipel, cette culture marine est un moyen de subsistance pour des milliers d'agriculteurs, dont la majorité est constituée de femmes. À 45 ans, Fatou Mustapha est l'une d'entre elles. L'algue a de très nombreux usages. Tout d'abord, elle est utilisée comme aliment. Mais nous faisons aussi du savon et nous l'utilisons pour fabriquer des produits de beauté. Mes revenus issus de cette exploitation m'ont permis d'éduquer mes enfants. Ces dernières décennies, Zanzibar a été l'un des plus grands exportateurs mondiaux d'algues. L'île a produit plus de 10 000 tonnes par an. La Chine, la Corée, le Vietnam, les États-Unis et l'Europe sont les principaux clients. Après le tourisme et les clous de girofle, l'algue est la troisième source de devises à Zanzibar. L'algue est aussi utilisée dans les dentifrices et les produits médicaux. Mais ces dernières années, Fatou Mustapha et d'autres agriculteurs ont vu leur récolte diminuer.
Nous prions juste pour de meilleurs rendements. L'élevage des algues est une lutte. Nous récoltons ce que nous pouvons trouver. Vous pouvez planter des algues et obtenir un rendement médiocre. Beaucoup de femmes ont déjà abandonné le commerce, mais il est difficile de trouver autrement de l'argent. Le changement climatique est à l'origine du déclin de la récolte d'algues. Fleur Moussia travaille à la marine scientifique de Zanzibar. Au cours des dernières décennies, dit-elle, la température de l'eau a augmenté de plusieurs degrés, ce qui rend les algues vulnérables. En raison de la température, l'algue a deux types de problèmes. Il y a ce qu'on appelle les épiphytes. Les épiphytes sont des micro-algues, comme vous le voyez ici. Vous voyez celle-ci? Elle est poilue. Lorsque les algues ont des épiphytes, s'il y en a trop, elles blanchissent, puis elles meurent, et les agriculteurs perdent leur récolte. Le gouvernement de Zanzibar est inquiet du fait que le changement climatique tue l'industrie des algues. Certains scientifiques ont suggéré la délocalisation des fermes un peu plus au large des côtes où l'eau est plus froide. Le problème est que la plupart des femmes à Zanzibar ne savent pas nager. C'est pourquoi le gouvernement encourage les cultivateurs d'algues à non seulement vendre les cultures, mais également à traiter les cultures commerciales. De cette façon, ils pourront gagner plus d'argent. Safia avait une ferme d'algues. Aujourd'hui, elle est chef d'une entreprise regroupant des femmes qui cultivent une nouvelle variété de produits à base d'algues. À l'époque, l'algoculture était bonne, mais je ne pouvais pas gagner suffisamment d'argent. Quand je rentrais à la maison, je fabriquais des savons. Je les ai fait inspecter et ils ont été approuvés. Ils ont dit que je pouvais les faire, donc j'en ai produit et j'ai commencé à les vendre. Safia et son entreprise sont passées de la fabrication du savon aux lotions pour le corps. Elles produisent également du jus et même des gâteaux à base d'algues. Elle s'inquiète de l'impact du changement climatique et espère que les algues de Zanzibar remonteront bientôt à la surface.
Merci de nous avoir suivis. Était également au menu de ce nouveau numéro du magazine Environnement, la lutte contre la déglatation des terres en Afrique. Merci également à vous de nous avoir suivis. Kossi Vitiasou au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle. Je t'aime, mi amore.